Bonjour à tous. Avec mon exposé, en fait, on va replonger dans des questions d'éthique. Hein, on avait laissé ça en suspens ce matin. Mais moi, je vais plutôt m'intéresser en fait au côté consommateur, hein, dans la question de l'éthique, dans la consommation d'alimentation halal, et plus particulièrement ici, l'exemple, c'est la viande. Alors, the PowerPoint is in English, for those who want to read it in English, but I will speak in French. Donc, en fait, le point de départ de ma présentation est un message audio que Gaïa, qui est le groupe d'action dans l'intérêt des animaux, a envoyé à des hommes et femmes politiques belges environ 2 semaines avant l'Aïd el-Kébir cette année. Et c'était pour leur demander, en fait, d'interdire l'abattage rituel sans étourdissement. Et le message audio est passé sur les radios nationales belges à partir du 12 octobre. Donc voilà le message, je vais vous le lire avec probablement moins d'emphase que dans le spot audio. Voix masculine. Ils sont venus nous chercher ce matin tôt. On dormait encore. C'est le claquement des portières qui m'a réveillée. Ils se sont mis à nous crier dessus dans cette langue que personne ne comprend en nous poussant dans un camion. En route, j'ai vite vu qu'on ne prenait pas le chemin de d'habitude. C'était plus long. Le camion a fini par s'arrêter devant un bâtiment froid et puant où on est tous entassés maintenant. Ça fout les jetons. Les cris, l'odeur et tout ce rouge qui coule par terre. Moi, je sais bien comment ça va se finir, je ne suis pas naïf. Mais qu'est-ce que je peux faire? À part attendre qu'il vienne me chercher, lui, là, avec son couteau et son tablier de moins en moins blanc. Voix féminine. Sans étourdissement, les animaux sont conscients de ce qui leur arrive dans les abattoirs. Chers politiques, évitez-leur la peur et la douleur de l'égorgement à vif. Faites évoluer la loi et imposez l'étourdissement avant l'abattage rituel. Plus d'infos sur gaïa.be. Donc, dans ce message audio, clairement, Gaïa aborde les questions de l'étourdissement, mais aussi du bien-être animal et de son respect, et donc d'éthique. Et je vais prendre l'éthique dans un sens assez large dans la suite de cet exposé, c'est-à-dire que j'entends par éthique tout type de normativité et de réflexivité qui, sur base du principe du bien, entend proposer aux hommes des manières de se comporter au mieux. Alors, pour aborder cette question de l'éthique, je me base sur un cas d'étude qui est l'association Green Halal, qui est donc une association belge, et j'ai fait des entretiens avec plusieurs de ses membres et les initiateurs de l'association. J'ai aussi pas mal exploré leur blog et j'ai participé à 2 événements, comme la projection d'un film qui s'appelle Love Meat Tender et donc la journée de l'Aïd dans un abattoir de province en Belgique cette année. Alors, donc, Green Halal, les bureaux sont situés à Bruxelles, il y a environ une 30aine de membres, tous musulmans. Elle a été fondée en 2010 par Mariam et Gerlando, donc c'est un couple belge, elle est d'origine marocaine, lui est d'origine sicilienne. Et leur but, en fait, est de promouvoir une nouvelle éthique islamique et plus particulièrement un éco-islam. Donc ils vont regrouper autour de la couleur verte à la fois la religion islamique et l'écologie ou le naturel, le durable, etc. Et donc pour promouvoir leur halal vert, ils vont diffuser beaucoup d'informations sur leur blog, mais ils vont s'y mettre au point des actions comme par exemple des organisations de soirées débat et aussi la vente d'un colis de viande de bœuf. Donc il s'agit de 5 kilos de viande de bœuf race limousin vendu au prix de 55 € et qui doit suffire pendant un mois à un couple avec 2 enfants. Et en fait, si j'insiste particulièrement là-dessus, c'est que le cheval de bataille de Green Halal, c'est la réduction de la consommation de viande. Vraiment. Pour eux, il s'agit de consommer moins, mais de consommer mieux, et de consommer une viande heureuse. Et donc, en fait, contre le halal qui est un esprit de consommation ou un marché gigantesque, une industrie désastreuse contre l'environnement, donc ça, c'est leur description du marché halal, eux vont vraiment promouvoir un halal qui respecte l'ordre divin. Alors, pour respecter cet ordre divin, ils ont mis en place ce qu'eux appellent une éthique de la consommation. Et donc, c'est là que Green Halal, par exemple, se différencie de Bionore, qui va vendre une viande halal et bio, tandis que Green Halal va vraiment insister sur la dimension éthique du respect de l'homme, de l'environnement et de l'animal, là où le bio, en fait, ne respecte pas assez l'animal, selon eux. Donc, cette éthique de consommation tient en 3 grands points, qui est tout d'abord adopter un comportement qui respecte les valeurs religieuses. Donc dans le Coran, Dieu préconise la restriction, la modération, le juste milieu dans les comportements, y compris alimentaires. Et donc Mariam et Gerlando font de nombreuses références au Coran et au Hadith pour justement inciter les membres à respecter l'écologie et les animaux. Donc, parce que pour eux, par exemple, la surconsommation de viande entraîne des problèmes écologiques très importants, puisque pour produire 1 kg de viande de bœuf, il faut environ 15 000 litres d'eau. Et donc, au niveau des actions qu'ils vont mettre en place, il y a par exemple la promotion des ablutions éco-conscientes, donc utiliser un minimum d'eau pour faire les ablutions, ou encore, en 2012, il y avait eu un ramadan vegan, donc qui permettait de vivre le ramadan en pleine spiritualité, puisqu'on devait un peu moins penser au repas qu'on allait préparer pour la nuit, puisque les aliments étaient de ce fait très très limités. Un deuxième point de cette éthique de consommation, c'est manger sainement pour être en bonne santé. Alors sur le blog, il y a énormément d'informations relatives à la santé, comme manger 400 grammes de viande par semaine pour éviter les problèmes cardiovasculaires ou l'hypertension, ou encore des informations relatives au fait que la nourriture industrielle, junk food, est en fait morte et n'a presque pas de qualité nutritionnelle. Alors, pour y remédier, Mariam Egerlando propose 7 conseils pour manger sain, S-A-I-N-T, et intelligent. Et donc, c'est par exemple, manger moins de viande, mais aussi manger local et bio, acheter des produits du commerce équitable, ne pas utiliser de mode de cuisson qui va faire mourir la nourriture. Donc, par exemple, éviter la cuisson à la cocotte minute ou à la casserole pression. Parce qu'en fait, pour Mariam Egerlando, le halal ne va pas sans le tayyib. Donc, ils essaient vraiment de concilier les deux dans ce qu'eux vont promouvoir. Et le troisième point de l'éthique de consommation, c'est respecter les animaux dans leur élevage et leur abattage. Alors, dans l'élevage, par exemple, c'est le fait que ce sont des animaux élevés en Belgique, donc pas de transport partout dans le monde, en plein air, pas de confinement dans des hangars, pas d'antibiotiques, presque pas de vaccins, pas d'OGM dans l'alimentation, ni de farine animale. Et l'éthique au niveau de l'abattage, eh bien, c'est le fait que Mariam Egerlando vont favoriser l'idée du sacrifice à celle de l'abattage, en fait. Donc, c'est abattre un minimum d'animaux. Et en fait, à l'image de Mercy Slaughter, qui est une espèce d'abattoir aux États-Unis, il y a des vidéos sur YouTube, en fait, qui montrent comment soumettre un animal par la parole de Dieu. Donc, il s'agit, en fait, de coucher l'animal, de réciter le Coran, et à la fin, l'animal doit rester couché tout seul, et à ce moment-là, on peut le sacrifier. Donc, ne sont sacrifiés que les animaux qui acceptent le sacrifice. Donc ça, c'est l'idéal auquel Green Halal veut parvenir, mais forcément en Belgique, ce n'est pas trop possible. Donc eux vont plutôt promouvoir en fait, les infrastructures d'abattoirs dessinées, enfin mises au point par Temple Grandin, qui est une éthologue américaine. Donc là, c'est par exemple plutôt entre l'enclos et la salle de jugulation, prévoir un couloir en escargot pour que l'animal ne voit pas où il va et qu'il continue à avancer en fait. Bon, maintenant, je vais m'intéresser un peu plus à cette question du respect animal et de la question de l'étourdissement. En me focalisant sur une journée donc, que j'ai passée dans un abattoir de province en Belgique, le jeudi 18 octobre, à l'occasion de l'Aïd el-Kébir. Alors, Green Halal avait acheté 26 moutons, et les familles, enfin les membres de Green Halal venaient choisir leurs moutons, le prenaient en photo, la famille était là, etc. Donc, il y avait quand même une ambiance assez festive. Une fois que le mouton était choisi, il allait de l'enclos à la salle de jugulation sur ses quatre pattes, donc il était encadré par deux hommes. Bon là, forcément, la salle de jugulation était mise sur le dos, égorgée, et puis il passait en salle de dépeçage. Tout ça peut paraître classique, excepté que le sacrifice a lieu le troisième jour de l'Aïd, donc ce qui est tout à fait licite, mais c'était pour respecter l'animal, dans le sens où, comme ça, l'animal n'était pas stressé par la ferveur des premiers jours du sacrifice, en fait. Et le sacrificateur, qui officiait aussi les deux premiers jours, a dit que les deux premiers jours, il y avait du sang partout, les moutons étaient égorgés 4 par 4, etc. Tandis que là, vraiment, il y avait une différence dans la cadence et le nombre de moutons sacrifiés. Deuxième point du respect animal lors de cette journée de l'Aïd, c'est que les moutons recevaient un traitement homéopathique la veille et le matin même du sacrifice, et ils étaient massés avec de l'huile de lavande avant de quitter l'enclos. Alors le traitement homéopathique s'appelle TIVAPA, c'est un acronyme pour Thiol Valérienne Passiflore, donc c'est les gélules homéopathiques des laboratoires Boiron, qui étaient diluées dans de l'eau avec du miel et qu'on donnait aux moutons. Et donc ça, c'est une vétérinaire française qui l'a mis au point, Madame Bressard, et donc ça se diffuse même dans les abattoirs conventionnels. Et une fois que le mouton a été choisi dans l'enclos, bien Gerlando rentrait dedans, massait la tête et les pattes avec l'huile de lavande, et puis le mouton partait dans la salle de jugulation. Bon, bien entendu, Gerlando était au courant que ça ne réduisait pas le stress à 100%, parce que le mouton est un animal instinctif, et donc quand il voit le groupe diminuer, il commence à stresser. Voilà. Et troisième point du respect animal, c'est que le processus d'abattage était lent et individuel. C'est-à-dire qu'il y avait une cloison qui séparait l'enclos de la salle de jugulation et la salle de jugulation de la salle de dépeçage. La salle de jugulation était entièrement nettoyée de tout le sang entre deux moutons. Et dès que le sacrificateur ou les membres de l'abattoir voulaient accélérer la cadence, Bien, Gerlando attendait vraiment dehors de la salle de jugulation avec le mouton que tout soit au point. Alors, bon, ils sont pas naïfs non plus, ils savent très bien que ce mode d'abattage, d'abord, n'évite pas tout stress pour l'animal parce que l'abattage reste violent, et surtout que, bon, ça peut pas vraiment être mis en place parce que ça demande des moyens logistiques et matériels assez importants, et comme le disait Gerlando, en fait, rentabilité et respect ne vont pas ensemble. Mais bon, eux amènent leur petite pierre à l'édifice et font comme ça. Alors, on a aussi parlé de la question de l'étourdissement, c'était surtout parce que j'étais là, je pense. Et donc, la plupart des membres étaient contre l'étourdissement, forcément, et ils avançaient plusieurs types d'arguments. Bon, principalement, c'était des arguments religieux, hein, dans le Coran et les hadiths, c'est vraiment abattage sans étourdissement et dans le respect de l'animal. Il y avait aussi des justifications plus techniques, hein, donc on en a déjà parlé tout à l'heure. En fait, l'étourdissement, c'est une technique de mise à mort et pas une technique de réduction de souffrance. Et donc, il y en avait peu qui étaient convaincus que les poulets résistent à l'électronarcose, par exemple. Il y avait aussi, c'est un argument plus éthique, mais qui reste dans le domaine un peu technique, c'est le fait que Mariam et Gerlando considéraient que l'étourdissement, en fait, c'est une souffrance, c'est une violence supplémentaire pour l'animal, que l'étourdissement a lieu avant ou après l'abattage, donc, et qu'en fait l'étourdissement n'évitait en rien la maltraitance des animaux pendant le transport ou à leur arrivée à l'abattoir, etc. Et que donc pour eux, c'est pas le rituel qui pose problème, mais vraiment l'industriel. Donc si on a un abattage rituel à rythme lent et avec un sacrificateur qui sait sacrifier correctement, il n'y a aucun problème. Et donc Gerlando me disait même que c'est à nous de montrer aux non-musulmans que l'abattage rituel est une bénédiction pour l'animal s'il est bien pratiqué. Il y avait aussi des arguments scientifiques, hein, donc j'ai par exemple mentionné le docteur Bressard ou Temple Grandin, mais il y avait vraiment l'appel à des experts, comme il y avait Yves-Marie Le Bourdonnec ou encore Joe Regenstein, qui étaient mentionnés dans les discours, mais ça vient principalement du site de Alkans. Alkans est très actif à ce niveau-là, et donc ils lisent beaucoup Alkans aussi, donc voilà, ça revient de là. Mais voilà, c'était mobilisé dans les discussions, parce que ces experts-là sont d'accord pour dire que l'abattage rituel sans étourdissement cause moins de souffrance que l'abattage conventionnel. Et il y avait aussi des arguments politiques, puisque, en fait, suite notamment à la campagne de Gaïa, les arguments principaux, enfin les critiques principales en Belgique, c'était le lien évident avec la déportation des Juifs, et en fait que ça favorisait les campagnes d'extrême droite, sachant que les prochaines élections fédérales en Belgique, si on arrive à trouver un gouvernement, auront lieu en mai prochain. Donc voilà, il y a aussi tout ce débat politique. Et donc, les membres de Green Halal étaient là, oui, mais c'est toujours les musulmans qui sont stigmatisés, c'est toujours nous qui en prenons plein, alors que bon, on n'est pas les seuls à faire souffrir les animaux. Je vais en venir maintenant à une conclusion. Je ne l'ai pas mis assez grand, je suis désolée. Il s'agit en fait de trois pistes exploratoires, parce que cette recherche, on est vraiment à son début. La première, c'est la piste de la consommation éthique comme mode d'engagement politique. Donc là, il y a pas mal d'auteurs qui ont travaillé sur ce sujet-là. Et par exemple, le consommateur éthique fait des choix en fonction de ses idées, de ce qui est bien, de ce qui est bon, de ce qui est juste. Et donc là, l'éthique est relative à un vaste spectre qui va du respect de la nature au respect des animaux, en passant par les conditions de travail ou encore le transport des produits exotiques. D'autres chercheurs ont été plus loin, comme Barnett et Hall, qui eux disent que la consommation éthique, c'est un mode de participation politique des gens ordinaires. Donc c'est vraiment un terreau idéologique aussi pour des réactions politiques et identitaires. C'est un mode de résistance au capitalisme. Alors on retrouve cette idée d'engagement politique chez Green Halal, puisque eux s'opposent vraiment à la nourriture industrielle d'une manière très forte. Mais en fait, si la piste engagement politique permet de mettre l'accent sur l'importance des valeurs et du local dans la consommation éthique, c'est assez réducteur quand même, en fait, parce que bon, l'éthique ne se résume pas à des choix politiques. Donc il y a un exemple assez flagrant, c'est pour les individus qui deviennent végétariens, c'est forcément, enfin il y en a, c'est pour des raisons morales, hein, éthiques, morales, mais il y en a aussi beaucoup, c'est pour des raisons de santé. Après un problème de santé, ils sont devenus végétariens. Et c'est notamment le cas de Meriem, en fait, qui a eu d'énormes problèmes de santé, qui a dû réduire sa consommation de viande et qui, donc, avec son mari, a décidé d'abord de consommer une meilleure viande eux-mêmes et puis, en fait, de monter cette association de Green Halal. Alors, une autre piste pour rendre compte, en fait, de la multiplicité des facettes de l'éthique que j'ai mentionnées pendant la présentation, c'est la théorie des conventions, qui elle est très utile parce qu'elle permet vraiment de voir tous les mondes dans lesquels l'éthique est présente. Et donc là, si je me base sur les travaux de Murdoch, par exemple, sur les mondes dans le domaine alimentaire, ben Green Halal est clairement dans un monde domestique, puisque c'est basé sur la confiance. Hein. Green Halal n'a aucune certification que sa viande est halal et encore moins éthique, en fait. Elle est aussi dans le monde civique, avec la défense de principes collectifs, et un monde écologique. Donc Green Halal est du coup opposé à des mondes, au monde commercial, par exemple, vraiment basé sur le prix, ou encore au monde industriel qui est basé sur le standard. Mais bon, j'ai aussi évoqué plutôt des conventions religieuses avec les références au Coran, des arguments beaucoup plus scientifiques avec l'appel aux experts, ou bien des arguments économiques, étant donné que le halal est quand même une filière particulière et que Meriem et Gerlando en sont conscients et l'exploitent économiquement quand même, puisqu'ils vivent en petite partie de leur association, de la vente de viande en tout cas. Et donc, ce qui est intéressant aussi avec la théorie des conventions, c'est qu'elle permet des rapprochements entre acteurs et collectifs. C'est-à-dire qu'à la fois Green Halal et Gaïa, donc, que j'ai mentionné en début d'exposé, mènent le même combat. Leur but, c'est de réduire la souffrance animale. Mais ils le font en s'appuyant sur des conventions différentes, parce que Gaïa va vraiment agir au niveau légal, là où Green Halal va beaucoup plus utiliser des conventions religieuses et écologiques, en fait. Bon, avec la théorie des conventions, enfin, moi j'en suis assez vite arrivée à une limite au niveau que l'éthique, c'est ni un monde ni une convention, c'est plutôt une grandeur qui se retrouve dans différents mondes. Et donc pour l'explorer, moi, j'ai choisi de parler de qualification au lieu de parler de grandeur, en fait, de la qualification d'un aliment comme éthique. Et donc la qualification, c'est assez général, on fait ça tous les jours, c'est l'attribution d'une qualité à une chose durant l'expérience de et avec cette chose. Et donc là, toujours en basant sur la théorie des conventions et d'autres aussi, plutôt des courants sociologie pragmatique, eh bien, la qualité d'une chose ne lui préexiste pas, mais émerge en situation en fonction des cadres de cette situation-là. Alors, l'idée avec l'étude de la qualification d'un aliment comme éthique, c'est vraiment de voir, en fait, la manière dont les gens, mais les gens, c'est tous les acteurs, hein, des consommateurs aux producteurs, etc., vont concevoir l'alimentation éthique et vont mettre en pratique leurs idées au quotidien. Et donc là, il y a 5 grandes pistes, je pense, qui sont intéressantes à investiguer, enfin étudier dans ce cadre-là et que bon, je vais mettre en place aussi rapidement que possible dans la suite de mes recherches. C'est les relations sensorielles avec l'aliment, quelles sont les qualités organoleptiques d'un aliment éthique, s'il en a. Les relations affectives avec cet aliment aussi, parce que les gens se disaient satisfaits de la consommation éthique, mais il y a énormément d'autres émotions qui sont liées au fait de manger de la nourriture, le plaisir, le dégoût, les souvenirs, la peur, l'anxiété, etc. Des relations conflictuelles aussi autour de l'aliment, donc c'est par exemple la controverse Gaïa Green Halal, avec toutes les justifications attenantes, donc là c'est vraiment intéressant pour voir dans quel domaine les controverses sont les plus importantes. La relation de la qualité éthique avec d'autres qualités comme le bio. Et donc là, je pense qu'on en aura un peu plus dans l'exposé qui va suivre avec Jean-Noël Ferrier. Et là, en fait, il s'agit vraiment d'essayer de voir qu'est-ce qui pousse à un moment les gens à porter attention à telle qualité. Ça peut être aussi bien un apprentissage individuel lié au parcours de vie, mais aussi le fait que le contexte plus global de la société nous pousse à un moment à accorder telle attention à telle chose. Donc par exemple, avec les peurs alimentaires suite aux crises de la vache folle, il y avait un contexte général qui fait qu'à ce moment-là, l'aliment de qualité a pris de l'importance. Et enfin, dernière piste à explorer, c'est celle de l'expertise de la qualification, parce que c'était assez intéressant ce matin d'entendre les débats, parce qu'il y avait des vétérinaires qui étaient là, il y a des sociologues qui ont pris la parole, enfin des gens des sciences sociales, mais tout le monde se dit expert, et en attendant, personne ne l'est assez, et Green Halal c'est pareil, parce que les gens qui sont là-dedans, ils connaissent énormément à propos de la viande halal, de l'éthique, etc., ne sont pour autant pas des experts, mais en attendant, c'est eux qui ont mis au point cette association. Donc, cette question de l'expertise et de la circulation de la connaissance au niveau de l'éthique est aussi très intéressante à explorer. Et donc, voilà, ben, je vais m'arrêter là, puisque mon temps en partie est terminé. Voilà, de toute façon, j'avais fini. Merci de votre attention.